Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission spéciale en ce 11 février, nous sommes heureux de recevoir dans cette émission Vivante Église, autour de cette question quel renouveau pour le pèlerinage à Lourdes, des invités que je vais vous présenter. Alors, il y a Pauline Broquet qui est là, qui est responsable du pôle développement. Bonjour Pauline, bienvenue. Don Jean-Xavier Salfranc est vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bonjour Père.
Bonjour Mathias.
Et puis également Sébastien Mézounave. Sébastien Mézounave, vous êtes responsable du département direction de site du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
C'est ça, bonjour.
Et le Père Marc-Olivier de Vaugirod, vous êtes chapelain au service des jeunes. Bonjour Père.
Bonjour Mathias.
Bonjour frère. Vous êtes capucin.
Ouais.
Vous faites partie, vous, Don Jean-Xavier, de la communauté des Pères de Saint-Martin.
Exactement, oui.
Et puis nous avons également des salariés donc dans ce sanctuaire, des salariés, et vous les représentez à la fois vous, Pauline, et Sébastien Mézounave. Pour répondre ensemble à cette question, quel renouveau pour le pèlerinage à Lourdes, alors que ce sanctuaire international a traversé deux années durant lesquelles il a été très compliqué pour des grands pèlerinages de s'organiser. Il y a eu des empêchements, des difficultés. Et on voit bien qu'il y a ici ou là, partout, des initiatives qui permettent d'entrevoir ce renouveau dont nous allons parler. Mais si vous le voulez bien, madame, messieurs, nous allons commencer par regarder peut-être le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en chiffres, en tout cas en fréquentation. La question qu'on se pose, c'est mais qui sont ces personnes qui viennent ces dernières années à Lourdes, dont la notoriété est mondiale, hein, on voit les affluences, on voit les magnifiques images. Pauline Broquet, diriez-vous que le sanctuaire de Lourdes a vécu vraiment de très profonds changements du point de vue de sa fréquentation ces dernières décennies?
Oui, c'est net. Le sanctuaire de Lourdes est habitué à recevoir depuis les débuts des pèlerinages organisés, venus de chaque diocèse, accompagnés par un directeur de pèlerinage, soutenus par les évêques. Aujourd'hui, la situation actuelle montre que beaucoup plus de personnes viennent de manière individuelle, viennent sans forcément préparer beaucoup leur venue également, ce qui fait qu'ils arrivent à Lourdes parce que c'est un lieu connu, parce que soit c'est un lieu à avoir vu une fois dans sa vie, soit c'est un lieu aussi de spiritualité, et donc ils sont évidemment à la recherche de quelque chose de profond à vivre, mais ne viennent plus finalement en grand groupe, avec des personnes malades, organisées depuis plusieurs années.
Donc vous diriez que le monde du pèlerinage organisé est devenu minoritaire comparé à tout le monde de visiteurs et d'excursionnistes et de pèlerins autonomes qui viennent.
Effectivement, je dirais qu'il y a une espèce de changement de rapport entre un monde organisé et un monde plus touristique, en fait, même, presque.
Sébastien Mézounave, qu'observez-vous avec des données, alors là, qui sont vraiment statistiques, vous qui avez installé aux portes des sanctuaires, non pas des caméras d'observation des gens, mais des cellules de comptage, puisque c'était une nécessité avec les questions de jauge pour les mesures anti-Covid, etc. Qu'est-ce que vous observez ?
C'était une nécessité, effectivement, liée au contexte de la crise sanitaire. Donc nous pouvons compter aujourd'hui chaque entrée et sortie dans le site. On ne peut pas, avec ce dispositif, faire une analyse qualitative, mais on peut faire une analyse quantitative. Et effectivement, par rapport à ce que disait Pauline tout à l'heure, on se rend compte que les flux de fréquentation que l'on peut observer en croisant les données avec les offices de tourisme en montagne montrent aussi des pics de fréquentation dans le sanctuaire. Donc effectivement, les choses se corrèlent. Et on a des visiteurs qui ne sont pas nécessairement des pèlerins aguerris, mais qui veulent découvrir ce lieu. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui avec les compteurs que nous avons installés là.
Alors évidemment, aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous allons assez rapidement nous y attacher parce que tout est né à la grotte Massabielle, ce lieu exceptionnel, mondialement connu, où la petite Bernadette a reçu la première visite de la Vierge un 11 février 1858. Mais on continue sur la question du nombre de personnes qui sont là, parce que c'est ce qui est frappant à Lourdes, c'est de voir les masses de pèlerins. Vous, Don Jean-Xavier Salfranc, sentez-vous que dans votre approche même de prêtre, il y a des changements, quoi. Les gens que vous rencontrez, que vous accueillez, ne sont pas les mêmes.
Alors moi, ce qui m'a frappé en arrivant comme chapelain au service du sanctuaire, c'est la diversité des motivations profondes de ces personnes, touristes, pèlerins qui viennent à Lourdes. Et j'ai découvert que le sanctuaire était vraiment un lieu d'évangélisation. Donc souvent, le pèlerinage à Lourdes ou la venue à Lourdes, c'est le seul lien pour certaines personnes avec la foi. Et donc pour nous, chapelain, c'est un appel à évangéliser à travers ce message de Lourdes qui est une forme d'évangile actualisé, si on peut dire.
Frère Marc-Olivier, vous-même, que diriez-vous de ces personnes qui frappent pas à la porte, si je puis me permettre cette expression, du sanctuaire ? Comment vous les percevez ?
Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de l'accueil des jeunes pèlerins. Et on peut voir ce qu'a décrit Pauline tout à l'heure, des pèlerins individuels plus nombreux que ceux qui viennent en groupe organisé. Ce sont deux belles démarches pour vivre la grâce de Lourdes, de venir avec un groupe avec lequel on va faire une unité, on va partager beaucoup de belles choses, et puis de venir tout seul. Et on le voit même dans d'autres événements qu'à Lourdes. Hein. Les jeunes, ils aiment bien venir en road trip, comme ils disent. Ils s'organisent eux-mêmes, ils font une petite voiture avec des amis, et ils viennent à Lourdes. Alors, ça les laisse un peu moins guidés, un peu moins accompagnés. Ils ne viennent pas forcément avec un prêtre, un aumônier qui va les avoir préparés, qui va les guider tout au long. Mais ils sont un peu livrés à l'expérience brute. Et alors nous, on doit un peu rattraper comme ça sur le sanctuaire pour essayer d'être un peu cet accompagnement qu'au final, ils chercheront en dernière minute.
Donc l'attractivité de Lourdes demeure, hein, c'est ce qu'on perçoit d'ailleurs. Oui. En ce 11 février, c'est toujours une affluence. C'est magnifique ce que l'on vit, cette foule bigarrée, diverse, exceptionnelle. L'attractivité demeure, mais on sent bien qu'il faut s'adapter. Le sanctuaire doit s'adapter à ces nouvelles réalités. Et ce qui frappe tout de même, Don Jean-Xavier, c'est combien la cause initiale est minuscule. C'est l'histoire d'une petite Bernadette qui va à la grotte Massabielle, qui est un lieu sale, humide. Mmh. Et puis, on voit ce monde, le 11 février, mais d'autres jours encore, hein, qui viennent à Lourdes, qui sont touchés par ce lieu. Je disais, la cause initiale est paraît minuscule parce qu'en fait, personne n'aurait dû croire ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'elle raconte ce jour-là ?
Eh bien, en effet, la cause initiale, c'est une rencontre entre Bernadette Soubirous et la Vierge Marie, et donc à la grotte de Massabielle. Bernadette Soubirous est partie dans cette direction, vers le bois de Lourdes, pour ramasser du bois, pour essayer de le revendre, pour vivre. Et elle voit dans le creux du rocher cette belle dame, et c'est la première rencontre. Alors dans cette première rencontre, ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas de parole échangée. La relation se tisse à travers des gestes, à travers le sourire de cette belle dame, à travers aussi le silence, le regard que s'échange cette belle dame et cet enfant de 14 ans.
Donc c'est totalement inattendu, et on ne sait toujours pas qui est cette belle dame à ce moment-là. Elle ne le sait pas elle-même, personne ne sait, il n'y a qu'elle qui voit. Qui est cette belle dame qui lui apparaît ?
Alors effectivement, cette belle dame va d'abord tisser une relation avec Bernadette, une relation de confiance, pour ensuite petit à petit lui révéler qui elle est. Et c'est seulement le 25 mars 1858, à la 13e apparition, qu'elle va se révéler comme l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception.
Ce que vous nous dites là de...
Mais Bernadette, ne sait toujours pas qui est l'Immaculée Conception.
Et elle court voir le curé pour essayer de comprendre.
Voilà.
Et puis le curé est bouleversé. Mmh. Je pense que le père Péramal, qui est le curé de Lourdes à l'époque, à ce moment-là, c'est là qu'il est converti, entre guillemets, aux événements de Massabielle. Quoi. Mmh.
Tout à fait.
Alors justement, j'allais vous interroger sur ce qui se passe à ce moment-là à la grotte, cette première apparition que vous décrivez, cette délicatesse de la belle dame. Est-ce que vous diriez que ça imprègne encore Lourdes ? Je veux dire par là que Lourdes est un lieu où on peut arriver sans être catéchisé, sans tout savoir, loin de là. Et on est comme apprivoisé, quoi.
Mais je dirais que Lourdes, c'est un sanctuaire très particulier parce que c'est une grotte, donc c'est un lieu ouvert. Alors de fait, tout le monde peut venir dans la grotte sans avoir à franchir le pas d'une porte. Et ça, ça détermine beaucoup de choses dans le sanctuaire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très important à la première apparition. C'est ce geste que fait la Vierge Marie, qui est le signe de la croix. Première chose que fait la Vierge Marie pour entrer en relation avec Bernadette, c'est le signe de la croix. Et bien, la Vierge nous enseigne par là que le signe qui nous relie au ciel, c'est la croix, et le signe qui nous relie les uns aux autres, c'est la croix, c'est son fils, c'est Jésus.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission, et puis juste après, nous essaierons de répondre à cette question, comment faire pour retrouver sans doute tout ce qu'il y a de fondamental, d'initial dans ce que vous venez de décrire, pour le remettre peut-être à la portée de tous aujourd'hui, de ces nouveaux publics que nous avons décrits. Nous en parlerons juste après ceci.
Présence.
Nos invités dans cette émission spéciale en ce 11 février, Journée mondiale des malades et en la fête de Notre-Dame de Lourdes, sont Pauline Broquet, responsable du pôle développement du sanctuaire. Il y a également Sébastien Mézounave, qui est responsable du site du sanctuaire, et puis dont Jean-Xavier Salfranc est vice-recteur de ce sanctuaire, aux côtés de Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, qui est le recteur, et le frère Marc-Olivier de Vaugirod, chapelain au service des jeunes. Merci tous les quatre d'être là pour nous réexpliquer ce qu'est Lourdes, comment vous le vivez et comment il y a un renouveau perceptible du pèlerinage à Lourdes. Vous nous racontiez juste avant la pause, don Jean-Xavier, que finalement, initialement, ce qui se passe à la grotte, c'est pas mirobolant, quoi. C'est tout simple, c'est une rencontre entre une belle dame et la petite Bernadette, illettrée, souffreteuse, sans doute une des plus pauvres de Lourdes. Est-ce que vous diriez qu'avec les nouveaux publics que l'on constate venir à Lourdes, qui ne sont ni catéchisés pour certains, ni connaisseurs du message, pas forcément initiés, il faut peut-être revenir à ce qui est essentiel et donc initial au sanctuaire. Et donc le récit initial, quoi.
C'est vraiment une conviction qui est partagée par les chapelains en ce moment. C'est pour renouveler le pèlerinage à Lourdes, il faut revenir à la source. Et la source, c'est pas d'abord des idées, c'est pas d'abord des grands discours, c'est cette rencontre toute simple qui a changé la vie de Bernadette et qui est passée à travers ce signe de la croix, à travers ce sourire, à travers ce silence. Et ensuite, à travers un échange de paroles, évidemment, et puis la prière et...
Frère Marc-Olivier, oui.
Alors, par rapport à ces publics qui ne sont pas très catéchisés, qui ne connaissent pas vraiment le message de Lourdes, je trouve que c'est passionnant de voir qu'il va à Lourdes. Il en va de Lourdes comme de la foi chrétienne. On dit, mais les jeunes, ils ne connaissent pas du tout. Hein. Vous nous raconterez peut-être, on a fait des micro-trottoirs. On s'est rendu compte que les jeunes aujourd'hui ne savent pas qui est Sainte Bernadette, ne savent pas ce qu'est Lourdes. Et en réalité, c'est aussi une occasion merveilleuse de pouvoir libérer sa nouveauté et sa jeunesse. Peut-être qu'il y a quelques années, Sainte Bernadette Soubirous, Lourdes, avait été un petit peu marquée par une image vieillie, l'image fanée d'Épinal, un petit peu de ses pèlerinages. Et puis Bernadette, le nom de nos grands-mères, un peu, beaucoup moins aujourd'hui. Et du coup, on peut peut-être avoir plus accès à un jeune qui ne connaît pas toute cette histoire de manière collective. Découvre que c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre une belle jeune femme et que c'est un message de nouveauté avec l'irruption de l'extraordinaire au milieu de nos vies ordinaires. Et je trouve que c'est un peu comme c'est pareil pour l'évangile, hein, qui est aujourd'hui un peu plus méconnu, mais en même temps qui retrouve une très grande nouveauté pour ceux qui ne sont pas avertis et qui le découvrent soudain.
Pauline Broquet, oui, allez-y, vous vouliez réagir.
Oui, justement. Je crois surtout que le message de Lourdes a ce quelque chose d'universel qui s'adresse au cœur, au plus profond du cœur de l'homme. Il va répondre à des interrogations essentielles. Pourquoi je suis là ? À quoi ça sert d'être là ? Et pourquoi je suis fait en tant qu'homme ou femme ? Et je crois que chez nos jeunes, comme chez parfois nos personnes plus âgées, il y a ce désir au plus profond de soi de le découvrir. Du coup, cette soif de spiritualité. Et la source de Lourdes vient apaiser cette soif-là, vient lui donner des réponses.
Mais des réponses qui ne sont pas très intellectuelles. Enfin, la Vierge, elle dit, allez boire à la source, vous y lavez. On parlera avec Sébastien Maisonneuve d'ailleurs tout à l'heure de toutes les modalités du déploiement, les 50 hectares, le sanctuaire de Lourdes. Mais elle ne répond pas des choses très précises. Enfin,
mais comme Jésus s'est incarné, cette réponse qui est donnée à Lourdes, elle passe par des gestes, des moments, par boire de l'eau, par toucher le rocher, par participer à une procession, par être là. Et finalement, elle ne passe pas par de grands concepts au départ.
Pourtant, Pauline Broquet, et là je m'adresse aussi aux prêtres, ce qui est connu à Lourdes, ce sont les grandes processions, les grandes messes, le nombre, le grand pèlerinage. Bon, on a tous des images d'Épinal hein, en tête, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit le pèlerinage militaire international, le pèlerinage des motards, hein, qui est né il n'y a pas si longtemps. Don Jean-Xavier, qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce Lourdes qui se rend plus simple ? Donc, vous nous le disiez, c'est vraiment au cœur de la préoccupation des chapelains de la communauté d'aujourd'hui ?
Oui, et peut-être pour poursuivre un peu la réflexion, je dirais que dans cette simplicité, on retrouve aussi la place du corps, qui, pour nous chrétiens, n'est pas un simple matériel, mais c'est notre personne qui est âme et corps. Et notre relation à Dieu, elle passe aussi par notre âme, évidemment, hein, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur, mais ce cœur à cœur, il est aussi stimulé, encouragé par des gestes concrets qui mobilisent notre corps, donc ça sera porter un cierge, ça sera toucher le rocher, ça sera boire l'eau, ça sera se laver, et ça sera aussi de participer à des grandes processions, et donc c'est toute notre personne qui est mobilisée pour participer à cette prière, qui n'est pas seulement d'ailleurs une prière individuelle, mais qui devient et qui est la prière de tout un peuple et la prière de toute l'Église.
C'est quelque chose de merveilleux dans une France et dans un monde qui connaît moins la liturgie, qui connaît moins les gestes et encore moins les contenus de la foi. C'est qu'à Lourdes, l'expérience précède la doctrine et la compréhension. Bernadette, elle ne connaît pas bien son cathé. Bernadette, elle ne sait pas ce que c'est que l'Immaculée Conception, mais elle la voit. Elle la voit et elle lui fait embrasser le sol, elle lui fait boire de l'eau, elle lui fait toucher des choses, elle lui fait tenir son cierge. Et à sa suite, il y a plein de pèlerins qui arrivent à Lourdes, mais on en voit tous les jours, qui ne savent pas prier. Ils disent, moi je ne sais pas prier, comment je fais ? On leur dit, fais ces quelques gestes-là et mets-y ton cœur. Et ça suivra après. Après, on t'expliquera. Vous savez comment faisaient les premiers chrétiens ? On parlait de la mystagogie. Ça voulait dire, ils vivaient d'abord les sacrements et après, on leur expliquait ce qu'ils avaient reçu. Ici, il y a quelque chose comme ça. La Sainte Vierge, elle est une pédagogue admirable parce qu'elle nous fait faire des choses. Et après, tu comprendras et on t'accompagnera.
Sébastien Maisonneuve, comment le site du sanctuaire dont vous vous occupez, pas tout seul, hein, je rassure ceux qui nous écoutent, en fait se laisse configurer, presque conformer à ce que nous venons d'entendre, parce que ça c'est un vrai sujet. Le lieu, en fait, 50 hectares, vous nous direz, enfin quelques chiffres peut-être, il doit se mettre au service de ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire se rendre accessible, compréhensible à tous ceux qui viennent à Lourdes.
Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait frère Marc-Olivier, c'est vrai que ces gestes-là donnent à comprendre, et en plus ils sont d'une simplicité inouïe, et ils deviennent du coup très accessibles. Ils deviennent accessibles à condition que le site soit à même de les donner à lire et à faire comprendre de façon simple. Ce site, il a toujours été aménagé pour servir le pèlerinage, les pèlerins. Les basiliques en témoignent, comme les accueils, comme l'esplanade des processions. Un site qui a été dimensionné, imaginé pour les grands pèlerinages. On l'a vu tout à l'heure en introduction, cette typologie change, mais malgré tout, ce pèlerinage organisé, il reste cœur. Il reste cœur parce que c'est lui qui fait ce rayonnement international à travers les images dont vous parliez tout à l'heure. Ces grandes processions, ces malades avec ces hospitaliers, etc. Et donc il faut qu'on continue cet aménagement pour répondre à tout ça. L'exemple du parcours de la grotte est un bon exemple. Hein. C'est un projet qui avait été initié sous l'ère de Mgr Brouvet.
L'histoire est quand même dramatique à l'origine, puisque c'est l'histoire d'un sanctuaire submergé
oui.
qui doit se reconstruire.
Exactement, c'est suite aux inondations de 2013, effectivement, que ça a été initié. Mais la logique était de pouvoir reprendre un parcours qui s'inscrive dans une compréhension beaucoup plus accessible, avec un enchaînement du geste du rocher, puis du geste de l'eau, et enfin du geste de la lumière, ces trois signes dont vous parliez tout à l'heure. Donc l'aménagement sert à ça. Et l'aménagement dans le sanctuaire, sur les 53 hectares de ce site, doit servir à ça. D'ailleurs, on a des réflexions à plus long terme, dans le cadre d'un schéma directeur d'aménagement du site, qui je l'espère, verra le jour dans les 10, 15, 20 prochaines années, qui doit toujours donc, servir ce pèlerinage, servir ces pèlerinages organisés, mais aussi répondre à cette nouvelle typologie de ces individuels, de ces primo pèlerins, je dirais, qui viennent dans ce lieu et qui ne savent pas trop d'ailleurs ce qu'ils vont venir chercher. Donc comment l'aménagement va servir à leur expliquer ça.
Sébastien Mézounaf, quand on vous écoute parler de ce merveilleux site du sanctuaire, on ne peut pas s'empêcher de penser à Bernadette qui a traversé cette prairie, ce lieu pour aller à la grotte Massabiel alors que c'était désert, humide. On se dit mais que de chemin parcouru en plus de 60 ans, 160 ans.
Nos prédécesseurs ont fait un travail considérable d'aménagement, alors d'aménagement physique, mais aussi d'aménagement quasi spirituel, d'enseignement, d'accompagnement pastoral qui a pu être fait. Ouais, c'est un travail qui a été remarquable, effectivement.
Et cette collaboration avec les prêtres, entre les professionnels, ceux qui sont chargés de tout ce qui conduit à maintenir un site comme celui-ci, et puis les prêtres qui constituent la communauté des chapelains, mais plus largement, hein, tous ceux qui veulent porter le message de Lourdes. Comment ça se passe, Don Jean-Xavier ? Je pense que vous allez me dire que ça se passe bien, mais plus précisément, c'est une alchimie improbable
oui,
quand même.
Ben,
du bénévolat, des prêtres, des clercs et des professionnels salariés.
Je pense que Lourdes est un lieu unique pour, pour la multiplicité des acteurs du sanctuaire. On a parlé des employés, on parle des chapelains, évidemment, on parle des bénévoles, on parle aussi des hospitaliers. Mais le sanctuaire, c'est aussi tous les directeurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité qui participent à la vie du sanctuaire. Alors, l'enjeu, c'est de créer la communion pour que nous puissions vraiment accueillir les pèlerins dans les meilleures conditions. Et ça, je crois que c'est le rôle des pasteurs et des chapelains de créer cette communion et de donner la vision à long terme. En revanche, les chapelains et les prêtres, ils ont besoin aussi de ce soutien et des compétences techniques, des compétences pour l'organisation, pour la mise en œuvre. Et puis aussi, on remarque que les fidèles laïcs, en vertu de leur baptême, ils participent aussi à la mission de l'Église. Et ça, on doit l'accueillir évidemment dans les conseils du sanctuaire, par exemple.
Oui, on rappelle juste que lorsque la Vierge dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici, qu'on bâtisse une chapelle et qu'on vienne en procession », en fait, elle le dit à Bernadette. Elle le dit à une baptisée.
Tout à fait, oui.
Elle ne le dit pas directement aux prêtres.
Oui, c'est ça qui est...
C'est signifiant, ça, aussi.
Alors justement, ça sera le thème de cette année. Cette phrase de la Vierge Marie, « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession ». Et cette année, on va davantage réfléchir sur la première partie, « Allez dire aux prêtres ». Et donc le rôle aussi de cet enfant de Dieu, Bernadette, qui va trouver le curé pour lui transmettre ce message.
Nous allons marquer une seconde pause dans cette émission. Juste après, nous continuons à tenter de répondre à cette question. Quel renouveau pour le pèlerinage à Lourdes ? Nous attacherons peut-être à regarder un peu plus près qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Au fond, qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Est-ce que c'est compréhensible par tout un chacun, faire pèlerinage ? Et puis, nous essaierons aussi de nous intéresser aux jeunes. Frère Marc-Olivier, vous qui vous occupez d'eux ici
volontiers,
à Lourdes, avec
volontiers.
D'autres. Pourquoi viennent-ils à Lourdes ? Qu'est-ce qui les attire et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils vivent une expérience unique et inoubliable ? À tout de suite.
Présence.
Merci d'être là avec nous en ce 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous aurons l'occasion de peut-être nous attacher à expliquer pourquoi c'est la journée mondiale des malades aussi, en même temps que la fête de Notre-Dame de Lourdes. Mais avec nos invités, pour le moment, nous essayons de répondre à cette question. Quel renouveau pour le pèlerinage à Lourdes ? Et particulièrement là, maintenant, qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Ça veut dire quoi faire un pèlerinage ? Peut-être particulièrement pour les jeunes qui viennent nombreux à Lourdes. Nos invités sont Pauline Broquet, qui est responsable du pôle développement du sanctuaire, dont Jean-Xavier, vous êtes vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Sébastien Mézounave, responsable de la direction du site, c'est-à-dire vous administrez sécurité, travaux, investissements, tout ce qui conduit aussi à faire que matériellement ça se passe bien. Et vous essayez, je crois, de mettre toute l'âme du message de Lourdes dans tout ça. Et le frère Marc-Olivier de Vaugirod est chapelain au service des jeunes. Et nous nous posons cette question, je l'ai dit, mais faire un pèlerinage, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est compréhensible ? Ceux qui nous écoutent se disent, bon, ils me parlent de pèlerinage depuis le début de l'émission. J'en ai jamais fait. Ça consiste en quoi ?
Alors, un pèlerinage, c'est un déplacement extérieur vers un lieu sacré. Qui suppose un déplacement intérieur. Le modèle, c'est dans l'ancienne alliance, lorsque le peuple hébreu libéré du joug de Pharaon traverse la mer Rouge pour entrer dans le désert et se rendre vers la terre promise. C'est un pèlerinage où le peuple hébreu passe de la captivité à la libération. Et ça, ce pèlerinage, c'est pour nous l'image de ce que, de notre vie. Toute notre vie est un pèlerinage, de la libération du baptême jusqu'à la vie éternelle.
Donc ça veut dire que c'est pour tous. Ce que vous nous dites là, c'est qu'on ne le sait peut-être pas, mais en fait, c'est notre histoire qui se raconte. Un pèlerinage, c'est notre histoire qui bouge, qui évolue, extérieurement et intérieurement. Frère Marc-Olivier, sur le pèlerinage, vous-même, vous en avez organisé avant d'être chapelain du
sanctuaire. Je suis venu comme pèlerin bien des fois avant de pouvoir accueillir les pèlerins ici, donc... C'est deux fois une grâce. Je fais une aparté là, parce que j'ai peur de pas avoir l'occasion de le dire. Sinon, on parle des pèlerinages et beaucoup de gens nous disent quand on nous prend des nouvelles de Lourdes, on prend des nouvelles de Lourdes un peu comme une dame malade à cause du Covid. On sait bien que le sanctuaire était fermé pendant des mois et on nous dit est-ce que les gens reviennent ? Est-ce que les gens reviennent ? Et je trouve que c'est bien qu'on puisse dire aux auditeurs ben oui, les gens y reviennent d'une part, mais notre vue, notre attente, notre désir, et même pour ma part, ma certitude, c'est pas que les gens vont revenir aussi nombreux qu'avant le Covid, c'est qu'ils reviennent deux fois plus nombreux pour se venger du confinement, pour se venger de toutes ces jauges qui nous ont empêchés d'aller à la messe autant qu'on aurait voulu, ou qui nous ont même simplement apeurés, alors on avait peur du contact d'autres personnes. Et bien à Lourdes, c'est un lieu où on se touche, où on touche la réalité de la foi, et où on se rassemble très nombreux justement pour l'expérience de foi. Je crois que vraiment ça peut être dans le cœur des chrétiens, de ceux qui ont aimé Lourdes ou ceux qui voudraient le découvrir, au contraire une belle ambition, se venger du Covid en venant deux fois plus nombreux à partir de dès le printemps prochain à Lourdes.
Don Jean-Xavier, oui, allez-y.
Alors c'est là où on retrouve le sens du pèlerinage, qui consiste à sortir de chez soi, sortir de son confort pour faire une expérience unique qu'on peut par définition ne pas faire, on peut pas faire chez soi. Donc on va dans un lieu où on peut se rassembler.
Et donc, Don Jean-Xavier nous disait le sens du pèlerinage, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre, frère Marc-Olivier ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fruit d'un pèlerinage ? Ça peut bouleverser une vie.
Mais oui, parce qu'en fait, je pense que tout un chacun l'expérimente, que c'est souvent des voyages qui vont nous donner des expériences nouvelles, qui vont permettre l'électrochoc, parfois décisif. On va ouvrir les yeux sur une réalité. Tant de gens ont été dans un autre pays, par exemple, et découvrent soudain qu'on peut voir les choses d'une autre manière. Alors, dans le cas de Lourdes, c'est l'expérience forte d'une assemblée fervente, d'un lieu où la grâce et parfois même sensible. Hein. L'expérience de Dieu est rendue facile. On prie ici comme nulle part ailleurs, disaient des frères capucins que je connaissais, italiens. Ils disaient, à Lourdes, on y prie mieux que nulle part ailleurs. Il y a quelque chose, un lieu où on peut vivre une expérience forte. Moi qui m'occupe de l'accueil des jeunes au sanctuaire, c'est vraiment la raison pour laquelle les jeunes viennent si nombreux à Lourdes. Et alors, les prophètes de malheur, ils sont très déconcertés, parce qu'on nous dit, les jeunes sont plus intéressés par la foi. Alors encore moins... ils seront intéressés par la dévotion mariale, non ? Sainte Bernadette Soubirous et puis la Vierge Marie. Eh bien, pas du tout. Les jeunes, ils viennent toujours plus nombreux au sanctuaire de Lourdes. Et pourquoi ? Parce que c'est un lieu où on rencontre d'autres jeunes pour vivre des choses fortes qu'on ne peut pas vivre chez soi. C'est ça un pèlerinage, c'est sortir de chez soi pour vivre des choses plus fortes et revenir différent.
Pauline Broquet.
Oui, je crois qu'en fait, il n'y a pas un pèlerinage, il y a des pèlerinages. Il y a différentes façons aussi de vivre son pèlerinage et il y a différentes expériences qui sont faites à travers le pèlerinage. Ce qui est aussi amusant de constater, c'est que d'un pays à un autre, le rapport au pèlerinage n'est pas le même. On voit bien que en France, en Europe, le pèlerinage est une vieille tradition. Elle est intégrée, elle fait partie de notre vie chrétienne. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peuple croyant, fervent, mais le pèlerinage n'existe pas comme il existe en France. Et donc, ils sont désireux de découvrir notre façon de faire pèlerinage, ce qui est pour le sanctuaire une très belle opportunité d'ailleurs.
Et donc, qu'est-ce qui est constitutif d'un pèlerinage tout de même ? Parce que pour le moment, on a donné du sens, on a dit ce que ça pouvait changer dans une vie. On fait quoi ? On vit quoi concrètement au cours d'un pèlerinage ?
Alors, je pense qu'il y a là aussi, hein, c'est comme disait Pauline, il y a différentes expériences, mais il me semble qu'il y a des points de passage quand même. Dans le pèlerinage à Lourdes, Et c'est de la première étape, c'est d'écouter, c'est de regarder pour se laisser toucher par la grâce du lieu. Ensuite, il y a quand même une étape aussi, une étape de vérité, de faire le point sur sa vie, où j'en suis. Peut-être qu'il y a des choses que je dois corriger dans ma vie. Il y a l'étape de ce sacrement du pardon, où on va reconnaître son péché pour demander pardon et recevoir la miséricorde de Dieu. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale et fondatrice aussi du pèlerinage. Être en vérité, ne plus être à la superficialité des choses. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi l'étape de la prière. Et il y a l'étape du service des malades aussi, évidemment, à travers cette hospitalité.
J'allais y venir. Ce qui est singulier à Lourdes, c'est que le ciment des pèlerinages, la plupart du temps, ce sont les personnes fragiles, malades, handicapées. Sébastien Mézounave, c'est quand même ça qui marque fondamentalement ce lieu, et y compris tout ce que l'on fait pour que ce lieu se rende accessible à ces malades.
Oui, effectivement, on est dans un lieu qui accueille des personnes malades en situation de handicap depuis le début. Et c'est un lieu qui a su d'ailleurs s'aménager avec ses grandes rampes, etc., pour accueillir les personnes en situation de handicap, même si aujourd'hui la réglementation française nous oblige à encore des ajustements nécessaires. On a d'ailleurs nommé une personne pour ça. On a une personne qui est dédiée à la mise en accessibilité du site, qui s'appelle Sébastien Bousquet, qui travaille tous les jours pour cette question. Donc oui, c'est un enjeu fondamental qui nous amène à des investissements lourds aussi, hein, puisqu'on est sur un projet d'investissement qui est de plus de 1 million d'euros sur les questions d'accessibilité, avec un objectif qui est une date à 2025 pour pouvoir échelonner donc nos investissements dans le temps.
Et puis il y a les accueils de malades, l'accueil Notre-Dame, l'accueil Saint-Fray, le Salus Infirmorum. Ça peut paraître très étonnant que le ciment, j'ai employé cette expression, du pèlerinage soit la personne malade ou fragile. C'est presque étonnant. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du message à délivrer à travers ça ?
Et c'est le message, c'est que à Lourdes, ce qui est donné à vivre comme pèlerinage, c'est l'expérience d'un résumé de l'Évangile intense. En peu de temps, on vit toute l'expérience chrétienne, entre le chemin de croix, qui est la passion du Seigneur, la procession eucharistique et la messe, l'expérience de la prière mariale et le service des malades. Et c'est le malade qui nous introduit à tout ça. C'est par le plus petit que le Seigneur se rend présent et puis qui nous introduit à la vie des sommets en réalité. C'est par en bas que le Seigneur il vient nous rejoindre pour reprendre toute l'humanité et puis aussi tout reprendre en nous-mêmes. Alors, c'est pas étonnant que le malade ou la personne fragile ou pauvre ait la première place, puisqu'on est dans un résumé de l'Évangile.
Et oui, ce qui est beau, c'est que quand on participe à un pèlerinage, et quand on voit les malades, et quand on les côtoie et qu'on les sert, on découvre que nous-mêmes, on fait partie de ce peuple des malades qui avons besoin d'être guéris. Nous aussi, on a besoin d'être guéris d'un mal qui est peut-être pas visible, mais qui est peut-être plus profond. Et le Seigneur, il est venu précisément, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Non pas pour les malades, mais non pas pour les personnes en bonne santé, mais pour les malades.
Mmh. Sébastien Mézounave, vous qui dirigez des équipes qui sont au travail pour maintenir ce site, l'entretenir, est-ce que vous sentez que ce message de Lourdes dont nous parlons là, qui est au cœur en fait du sanctuaire, hein, qui le fait vivre, qui le fait rayonner aussi. Est-ce que vous sentez que les équipes sont touchées aussi ? Alors, ce que j'appelle les équipes, c'est tous ceux qui travaillent dans ce sanctuaire.
J'espère qu'elles le sont. Il me semble quand même que la plupart de nos collègues sont vraiment immergés là-dedans et ils sont sensibles. Si ce n'est pas le cas, c'est à nous, managers, de travailler à ça et de faire en sorte que systématiquement on se raccroche. Ce que j'ai l'habitude de dire, moi, à mes collègues, c'est il faut savoir s'arrêter de travailler pour accueillir un pèlerin et leur enseigner. Parce qu'ils sont souvent, d'ailleurs, ils sont souvent sollicités par des pèlerins qui leur demandent. Et ça fait partie de leur mission, ça, parce que la première des missions pour moi de tous les salariés laïcs, alors on pourrait y rencontrer les bénévoles et les religieux, etc., mais si on s'arrête aux salariés, la première des missions, c'est d'accueillir le pèlerin. Et donc d'accueillir aussi le plus fragile. Et ensuite, chacun a ses fonctions. Donc oui, j'espère que, je le crois, que nos collègues sont vraiment immergés là-dedans.
Et puisque nous parlons du travail à faire, des projets, Vous diriez qu'on en est où? Est-ce que le renouveau du pèlerinage passe aussi, Sébastien Maisonneuve, par des, sans parler de grands projets, par de l'ambition sur ce terrain-là? Est-ce qu'il y en a de l'ambition dans ce sanctuaire pour déployer des choses?
Je parlais tout à l'heure d'une vision que nous avons une quinzaine d'années. Nous l'avons intitulée Lourdes 2030. Alors, ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier 2030, tout sera fait. Mais il y a des grandes ambitions à travers 8 grands périmètres opérationnels que nous avons définis. On parlait des jeunes tout à l'heure. Le village des jeunes est certainement une des priorités de ces aménagements. Tout comme la grande entrée Saint-Joseph, qui va faire partie aussi de ces aménagements prioritaires, parce que nous devons encore mieux accueillir et transformer nos logiques d'accueil pour pouvoir satisfaire la venue de nos pèlerins.
Donc on dit que Lourdes est un chantier permanent. Ce que vous nous annoncez, c'est encore une décennie de chantier.
Oui, il y a toujours eu un rythme de décennies. Les années 80, c'était l'église Sainte-Bernadette. Les années 50, c'était la basilique Saint-Pédis, les piscines. Les années 90, c'était les accueils. Les années 2000, le rosaire. Les années 2010, l'espace grotte. Et puis, oui, tous les 10 ans, on aura quelque chose, effectivement.
Quand vous disiez le rosaire, c'est la rénovation, enfin,
oui,
la protection de cette basilique.
Pas sa construction.
Oui, pas sa construction. Nous allons nous arrêter une dernière fois dans cette émission et puis pour la dernière ligne droite qui nous reste, nous parlons du rayonnement de Lourdes en dehors de Lourdes. Oui, ça peut étonner, mais il y a là un magnifique réseau extraordinaire à travers le monde. Nous en parlons à travers l'émission Notre-Dame de Lourdes, pérégrination des reliques et retransmissions diverses. Et puis nous terminerons, et c'est peut-être à eux qu'on le doit, par parler de la journée mondiale des malades, puisque c'est... en cette fête Notre-Dame de Lourdes, la 30e journée mondiale des malades. A tout de suite.
Présence.
Nous sommes avec nos invités aujourd'hui pour cette émission spéciale en ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, pour essayer de répondre à cette question, quel renouveau du pèlerinage à Lourdes, alors même que le sanctuaire a pu être empêché d'accueillir ces derniers mois des pèlerinages internationaux. De nombreux pèlerinages qui souhaitaient venir depuis 2 ans ont pu être amoindris ou empêchés. Et il y a tout de même des pèlerins, puisqu'on a cessé de prier à la grotte, grâce au chapelain que vous êtes, notamment représentant cette communauté, vous, dont Jean-Xavier, vice-recteur, et puis le frère Marc-Olivier, qui est chapelain au service des jeunes. On a cessé, avec cette prière continue, de prier à la grotte, même quand le sanctuaire était fermé. Et puis, on a cessé d'avoir des projets. Vous incarnez un petit peu cela, Sébastien Maisonneuve, puisque vous nous parliez d'un horizon Lourdes 2030 avec des pôles, des projets et des chantiers qui sont à venir. Et Pauline Broquet qui, justement, alors là, est responsable du pôle développement. Donc, si le sanctuaire n'a pas d'ambition, c'est à n'y rien comprendre. Vous nous écoutez depuis le début de cette émission et vous vous dites, bon, beaucoup de changements. Ce qui reste constant, Père, ça reste le message de Lourdes, dont Jean-Xavier, vous, comme vice-recteur, vous êtes, et tous les chapelains sont très attachés, vous nous le disiez tout à l'heure, à vraiment se laisser réimprégner par le message délivré à la grotte.
Oui, ça c'est le cœur.
Il ne faut jamais l'oublier, ça.
C'est le cœur et la source de notre mission. Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment on peut mieux le transmettre aujourd'hui.
Voilà, c'est ça la grande question. Et justement, une façon, c'est de faire rayonner ce message en dehors de Lourdes. Qu'est-ce que ça signifie, Mission Notre-Dame de Lourdes? Ça veut dire que maintenant, on va faire des pèlerinages en dehors des 50 hectares dont nous parlait Sébastien Maisonnave?
Alors, l'initiative de ces missions de Lourdes, elle est venue d'un échange entre chapelains pendant les confinements, où on était triste de voir le sanctuaire vide, et on s'est dit, mais si les pèlerins ne peuvent pas venir à Lourdes, peut-être qu'on pourrait organiser la venue de Lourdes dans les diocèses et dans les paroisses. Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette initiative. Mais en réalité, ça correspond à quelque chose de très profond. C'est que Lourdes, c'est un lieu où l'on converge pour prier. Mais c'est aussi un lieu d'où l'on repart comme des missionnaires. Et ça depuis les origines. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de missionnaires qui venaient se confier à Notre-Dame de Lourdes, qui partaient ensuite dans le monde entier, en ayant avec eux la dévotion de Notre-Dame de Lourdes, qu'ils ont répandue partout sur les 5 continents.
C'est pour ça qu'on trouve des grottes de Lourdes.
Exactement.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc Lourdes, c'est pas seulement un lieu où l'on se rend, c'est un lieu d'où l'on part en mission.
Pauline Broquet, c'est de l'organisation tout ça, parce que on sent que ça démarre bien, qu'il y a eu déjà pas mal de missions, je ne sais pas combien, vous allez nous le dire, et il y en a d'autres en perspective.
Oui, il y a déjà eu une vingtaine de missions, donc effectivement, preuve que l'intuition des chapelains était excellente. Les diocèses ont répondu, les diocèses ont sollicité les chapelains pour qu'ils viennent par d'eux. Faire vivre...
Donc les chapelains partent en mission, hein, c'est vraiment
les
ça.
Les chapelains partent vraiment en mission par d'eux. Comme le Christ l'a demandé, vous irez deux par deux. Et vraiment, ils sont au service du diocèse qui accueille pour faire vivre la grâce de Lourdes à travers des processions, à travers des enseignements, à travers le geste de l'eau. On envoie effectivement du coup de l'eau aux hospitalités diocésaines ou aux prêtres des diocèses pour qu'ils puissent faire tout ça.
Ça a eu lieu en France, mais c'est même pensé dans d'autres pays.
Exactement. Alors de fait, nous avons démarré en quelque sorte par la France avec 20 lieux, 20 diocèses. Et en 2022, nous partons, nous les chapelains surtout partent aux États-Unis et en Angleterre, en Royaume-Uni même.
Donc d'autres missions en perspective. Qu'est-ce qui est justement essentiel de respecter lorsque une mission Notre-Dame de Lourdes est organisée? Est-ce que ça doit se faire forcément avec une communauté accueillante chrétienne qui dit je veux vivre une mission, un diocèse? Comment ça se passe concrètement?
Je crois que, mais Pauline pourra peut-être me préciser, mais il me semble que la mission vient d'une demande qui est faite par un diocèse. Ça peut être fait par l'évêque en particulier, mais c'est fait par le diocèse. Et souvent, ça s'appuie sur les hospitalités Notre-Dame de Lourdes. Mais après, il y a un échange entre les chapelains, entre l'équipe du sanctuaire et le diocèse. Et on essaye d'élargir un peu la base pour aller parler de Lourdes à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Lourdes. Donc il y a aussi une dimension missionnaire au-delà des hospitalités.
C'est l'opportunité d'aller vraiment rejoindre les périphéries, dont nous parle beaucoup le pape François. C'est aussi l'occasion pour nous de recréer le lien, parce qu'en fait on voit quand même qu'il y a eu une rupture en quelques années entre Lourdes et les lieux qui portent le nom de Notre-Dame de Lourdes ou de Sainte Bernadette, que ce soit en France ou à l'étranger. Enfin, ça se voit beaucoup, beaucoup sur les États-Unis, puisque nous préparons effectivement ce départ pour les États-Unis. Et c'est très désiré par les diocèses, par les prêtres. Donc, on répond vraiment à une attente, tout en saisissant l'opportunité d'aller au-delà.
Lourdes, c'est pas une sorte de gadget ou d'accessoire pour des catholiques qui auraient déjà une vie très complète, ils connaîtraient déjà leur catéchisme, ils connaîtraient déjà bien l'évangile, alors ils auraient un gadget de plus. Lourdes, c'est aussi une merveilleuse porte d'entrée pour des gens qui connaissent rien de tout, avec à la foi ni rien, à l'expérience de l'Église. C'est un merveilleux lieu pour comprendre, à partir d'une petite porte d'entrée très simple, toute la foi chrétienne et toute l'expérience de la vie en Église.
Donc vous dites qu'aller parler de l'évangile à travers le message de Lourdes à des gens qui n'ont peut-être même pas entendu parler d'évangile ou peu, c'est finalement un formidable
moyen d'évangélisation. Lourdes se raconte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se raconte par cette rencontre d'une jeune fille avec une belle dame. Donc c'est un témoignage. Lourdes, c'est un témoignage, c'est un événement qui se propose à notre intelligence. Et après, toute une multitude de témoignages qui sont les miracles, la ferveur, la solidarité à Lourdes.
On reste encore un peu sur cette mission. Vous nous disiez à l'instant qu'il y a une mission qui s'organise aux États-Unis, d'avril à juillet, je crois. Il y a également, au cœur de cette mission, Sainte Bernadette, puisqu'il y a la pérégrination des reliques.
Voilà, donc c'est une mission un petit peu particulière, puisque... elle est accompagnée par la pérégrination des reliques de Sainte Bernadette. Et donc, les reliques sont envoyées dans près de 25 diocèses des États-Unis.
Ça parcourt presque tous les États-Unis.
Ça parcourt effectivement tous les États-Unis d'est en ouest.
C'est impressionnant. On reste toujours impressionné que cette petite Bernadette, dont le commissaire Jacomet disait « Tu vas faire courir le monde, tu fais courir le monde ».
Et ben là, elle va beaucoup faire courir le nouveau monde, puisque c'est historique pour les États-Unis de recevoir les reliques de Sainte Bernadette. C'est la première fois. C'est un pays qui a reçu une fois dans un lieu les reliques de Sainte Thérèse, mais qui ne reçoivent pas vraiment de reliques. Donc là aussi, il s'interroge sur le pèlerinage, mais il s'interroge aussi sur qu'est-ce que la dévotion de reliques. Donc pour nous, c'est merveilleux de pouvoir aller partager toute cette expérience avec eux.
Sachant que les États-Unis sont consacrés à l'Immaculée Conception.
Complètement, et qu'il y a... En fait, dans tous les diocèses, on passe dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes ou Sainte Bernadette. Donc en fait, on a comme une petite part de chez nous.
Le recteur se rendra lui-même aux États-Unis ?
Oui. Oui, oui, il a prévu un voyage.
Et des chaplains, je pense. Alors là, Don Jean-Xavier, qui est vice-recteur, ne sait pas trop encore si...
Do you speak English?
Il y a tel ou tel chaplain qui ira, mais c'est certain, oui, de toute façon...
C'est en cours de travail.
Et donc, ce rayonnement d'un Lourdes en dehors de Lourdes, vous nous disiez, Don Jean-Xavier, qu'en fait, c'est depuis les origines. Et une des traces, c'est toutes ces représentations de la grotte, ces dénominations de paroisse ou autres lieux spirituels par Bernadette, Notre-Dame de Lourdes. Donc ce n'est pas nouveau. Il faut peut-être se ressaisir de cette nécessité de faire rayonner un Lourdes en dehors de Lourdes.
Oui, eh bien, je crois que c'est aussi un des fruits du pèlerinage. C'est ce que vous disiez au début. Le pèlerinage, il touche le cœur, il nous transforme à l'intérieur, mais il fait de nous aussi des témoins et des apôtres. Un petit peu à la façon de Bernadette.
Alors, vous êtes aussi des êtres, les chaplains, médiatisés aujourd'hui, si je puis me permettre cette expression, parce que de retransmission. Ça aussi, ça permet de faire rayonner Lourdes en dehors de Lourdes.
Alors effectivement, je pense que les moyens Internet, les vidéos permettent à des fidèles dans le monde entier de participer à la prière de Lourdes, le chapelet en particulier. Moi, je suis très, très ému de recevoir des messages de personnes qui habitent l'Argentine, le Québec ou l'Afrique et qui nous remercient pour cette prière du chapelet. Et ça c'est quand même des messages qu'on reçoit assez régulièrement.
Vous aussi,
ça soutient notre prière. Quand nous prions le chapelet à la grotte, nous avons vraiment conscience de nous unir à la prière de milliers de personnes à travers le monde et de porter leur prière dans cette grotte. Et les gens le disent parfois dans les chats, dans les rencontres aussi, des gens qu'on voit qui nous disent « ça fait un an, je vous connais depuis longtemps », disent-ils. Mais c'est très important parce que cet aspect international par les médias, par la communication, elle nous donne quand même une pâle idée, mais une idée quand même de ce qu'est la communion des saints. C'est-à-dire une connexion à un niveau bien supérieur que celui des médias, mais tout de même que les médias auront permis.
Cette prière qui aussi est empreinte un peu de gravité parfois, parce qu'on prie pour le monde et avec le monde, dans un monde qui est en proie à des souffrances, des difficultés, vous recevez des intentions du monde entier. On ne peut pas rester indifférent à ça, à cette réalité. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, mais c'est aussi Lourdes, un creuset qui reçoit toute cette humanité en souffrance, non ?
Ça, c'est très. Là aussi, c'est très émouvant de rencontrer les pèlerins et Parfois, on a organisé tout le chapelet, on a tout écrit, nos méditations, et puis il y a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant « Mais il faut prier pour le Liban, et
pour l'Ukraine,
pour telle ou telle intention. Voilà. » Et du coup, là, on va modifier ce qu'on avait prévu pour intégrer toutes ces intentions dans notre prière. Hmm. Et ça fait vraiment partie, je pense, de la grâce de ce sanctuaire de Lourdes. D'être un lieu d'intercession pour le monde.
Magnifique de terminer ainsi, être un lieu d'intercession pour le monde. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci à vous.
D'avoir permis de répondre un peu à cette question, le renouveau du pèlerinage à Lourdes. Je rappelle que nous étions en compagnie de Pauline Broquet, qui est responsable du pôle développement du sanctuaire de Lourdes, de Sébastien Mézounave, responsable du pôle direction de site, du département, même exactement direction de site, le frère Marc-Olivier de Vaugirod, chapelain au service des jeunes, et puis le vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, dont Jean-Xavier Salfranc. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.